Les podcasts de Radio Vatican.
La propriété à Rio de Janeiro de l'ex-président de la Confédération brésilienne de football, des terres appartenant à un sénateur ou au ministre de l'Agriculture. Le mouvement des paysans sans terre, le MST au Brésil, a occupé ses propriétés ces derniers jours dans le cadre de sa campagne « Corrompus, rendez-nous nos terres ». Ces opérations interviennent alors que le président Michel Temer fait face à la menace d'un procès pour corruption. Son sort dépend des députés qui peuvent le renvoyer vers la Cour suprême lors d'un vote le 2 août prochain. Parmi les 513 députés, 211 sont directement lié au puissant lobby de l'agrobusiness. Or, depuis plusieurs mois, le gouvernement brésilien a pris une série de mesures allant dans le sens des intérêts de ce secteur économique incontournable dans le pays. C'est là que les dernières occupations de terres du MST et les dernières affaires de corruption au plus haut niveau se rejoignent. Hélène Chauveau, doctorante en géographie rurale à l'Université Lyon de Lumière, revient sur les liens entre le président Temer et l'agrobusiness et ses conséquences pour les sans terres.
Temer est clairement lié au lobby de l'agrobusiness qui représente au Congrès 211 députés sur 513, donc c'est vraiment un lobby très puissant. Il va avoir besoin notamment de ses députés le 2 août prochain, puisque le Congrès va devoir voter le renvoi de son cas vers la Cour suprême, qui peut décider de l'inculper et de l'écarter du pouvoir. Donc il a vraiment très besoin de ce lobby en ce moment. Et ces députés ont mis en place depuis un an une série de lois vraiment très importantes qui remettent en cause de très nombreux acquis de la réforme agraire. Et donc, en complicité avec le président Temer, ils ont rendu possible notamment la commercialisation des lots qui étaient réservés aux sans-terres. Ils ont promulgué une loi qui rend légal un contrat de travail qui est quasiment proche de l'esclavage, qui permet la rémunération seulement en nature des ouvriers agricoles. Et ils ont permis aussi la vente de terres à des acheteurs étrangers, ce qui met vraiment en péril la possibilité même de réforme agraire. Et depuis le gouvernement Temer aussi, ce qui se passe, c'est qu'on assiste à une très forte répression et une criminalisation du mouvement et de ses leaders, avec l'emprisonnement de plusieurs d'entre eux l'année dernière. Et le nouveau gouvernement ferme les yeux vraiment sur la violence extrême qui se déploie sur les militants, avec au moins 2 massacres déjà répertoriés cette année. Il y a eu 9 morts dans le Mato Grosso le 20 avril et 10 morts le 24 mai dans le Pará. C'est des actes vraiment délibérés, très violents, qui sont perpétrés par les bras armés des fazenderos, donc des grands propriétaires, qui s'accaparent les terres. Et ça, c'est à peine relayé en fait dans les médias nationaux et ça reste totalement impuni.
Qu'ont fait exactement les gouvernements précédents, principalement de ceux de Lula et d'Dilma Rousseff, pour répondre aux attentes spécifiques des sans-terres?
Les liens ont toujours été un peu ambigus entre le Parti des travailleurs, et donc qui était le parti de Lula et Dilma, et le mouvement des sans-terres, parce que le Parti des travailleurs avait un peu abandonné la réforme agraire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de réelle remise en cause de l'orientation exportatrice du pays. Mais il était difficile quand même pour les sans-terres de se confronter directement à un parti auquel ils étaient historiquement alliés. Et quand même, entre 2003 et 2011, Lula a régularisé, installé plus de 600 000 familles. Dilma avait, elle, installé environ 130 000 familles entre 2011 et 2015. Donc elle avait été accusée de paralyser un peu la réforme agraire, de mener une action qui lui était favorable mais trop lente. Et donc il y avait eu des manifestations pour lui demander d'accentuer son action en faveur des sans-terres. Mais aujourd'hui, face aux régressions écologiques et sociales et à la destruction du système de protection mené par le gouvernement Temer et ses actions qui sont ouvertement en faveur de l'agrobusiness, ça a ressoudé en fait les militants des sans-terres qui se mobilisent très fortement contre lui. Et qui défendent le bilan de Dilma et de Lula, qui, s'ils n'étaient pas parfaits, leur étaient quand même bien plus favorables que ce qui est en cours et surtout que ce qui s'annonce.
Est-ce que les problèmes spécifiques des sans-terres sont-ils liés aux préoccupations également environnementales qui concernent principalement l'Amazonie ?
Principalement l'Amazonie, mais le pays entier en fait. Hein. Mais c'est vrai que les deux sont très liés, parce que les actions menées cette semaine sont aussi pour dénoncer, outre la corruption, le bond en arrière qui est vraiment vécu par le pays depuis l'arrivée de Temer il y a un an, en termes de droits environnementaux et de droits aussi des populations indigènes. Par exemple, le président a mis un coup d'arrêt au processus de démarcation officielle des terres indigènes, qui est un processus qui est très important pour les préserver de la spéculation et reconnaître à ces populations le droit de vivre, en fait, tout simplement, sur des terres qu'elles occupent traditionnellement. Et il brade actuellement, vraiment, concrètement, une partie de l'Amazonie aux intérêts de l'agrobusiness et en particulier aux capitaux américains, le tout via des négociateurs souvent corrompus. Il a promulgué une loi également permettant davantage de déforestation et l'abaissement du niveau de protection de nombreux espaces naturels qui étaient fortement protégés par les lois, y compris par des accords internationaux. Et donc, de manière générale aussi, de toute façon, en favorisant les monocultures exportatrices, soja, canne, etc., et les gros propriétaires, ces maires favorisent complètement la dégradation de l'environnement. Et il y a aussi une criminalisation des militants environnementaux spécifiquement.
Ce mouvement des sans-terre, est-ce qu'il a des relais dans la société ?
Il a des relais, notamment donc via le Parti des travailleurs. Il y avait des relations ambiguës récemment, mais là, ça se renforce vraiment clairement, puisqu'il faut se battre contre cet ennemi commun à tous les mouvements sociaux, qui est ce nouveau président et ce gouvernement illégitime. Et puis le mouvement des sans-terre a toujours eu des relais également dans l'Église catholique, puisqu'il est lié depuis son origine à la théologie de la libération. Et il a donc des rapports privilégiés avec les autres mouvements ou associations religieuses qui étaient liées à cette théologie, comme la pastorale de la jeunesse rurale, par exemple, ou la CPT, qui est la Commission pastorale de la terre. Et donc cette CPT, qui est notamment une association catholique qui aide les paysans en lutte, et qui fait surtout un travail de recensement des assassinats liés au conflit agraire dans le pays. Vraiment, la CPT, Commission Pastorale de la Terre, fait un gros travail d'appui au MST. Et les relais, en fait, ils sont surtout locaux, et les mouvements ecclésiaux de base ont eu et continuent d'avoir une grande importance pour la sensibilisation du public aux causes des sans-terre. Mais ce soutien dépend quand même beaucoup des contextes locaux particuliers et varie beaucoup selon les régions et l'orientation du personnel religieux, parce que les lobbies conservateurs, notamment évangélistes, mais pas seulement, sont également très liés à l'agrobusiness et sont également très puissants, notamment auprès des politiques les plus haut placés.
Quelle issue peut-on entrevoir de ces occupations qui ont lieu actuellement ?
Le but, c'est aussi qu'on parle de ces luttes et qu'on parle de ce qui est en train de se passer au Brésil, notamment dans les médias nationaux, qui occultent une grande partie de ce qui est en train de se passer, notamment les massacres de paysans qui sont passés sous silence, puisque le pays tout entier est tourné vers les scandales de corruption. Et donc, certes, la corruption, c'est très important et tout le pays regarde actuellement ça, mais via la dénonciation de cette corruption et l'occupation de propriétés de personnalités clés corrompues du gouvernement actuel, c'est aussi l'occasion de dénoncer les problématiques environnementales, sociales, légales liées aux espaces ruraux qui souffrent beaucoup depuis le coup d'État de l'année dernière.
Un entretien réalisé par Xavier Sartre.